ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir, Radio Pleine Lune 1994, Onde Femme Radio Zone. Alors, bon, cette année, ce sera une année avec une immense lune dans votre ciel, une lune toute rouge. Radio Pleine Lune 93.4.8. Pourquoi changer? Non, en 94, c'est toujours 93.8 MHz sur Onde Femme Radio Zone. Dans quelques instants, nos nouvelles. Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz sur Onde Femme Radio Zone, nos nouvelles. Les Chinois ne veulent plus de bébés de qualité inférieure. Stérilisation, avortement sont prévus par un projet de loi pour empêcher les personnes malades de procréer. Les handicapés coûtent trop cher à l'État chinois. Après avoir instauré la politique très controversée d'un enfant par famille, la Chine veut interdire aux personnes atteintes de certaines maladies d'avoir des enfants. Elle entend réduire le nombre d'individus de qualité inférieure, selon le ministre de la Santé publique Chen Mizhang. Au terme d'un projet de loi actuellement examiné, les personnes atteintes d'hépatite, de maladies vénériennes ou mentales n'auront pas le droit de se marier avant leur guérison. Les femmes enceintes, atteintes de certaines maladies infectieuses ou dont le fœtus serait anormal, seraient incitées à avorter. Les couples entrant dans ces catégories devraient être stérilisés. Pour le ministre de la Santé, ce projet est justifié en expliquant que prendre en charge un grand nombre de handicapés représenterait une trop lourde charge pour l'État. Si la situation continue ainsi, la qualité de la population chinoise chutera rapidement, a-t-il souligné. Le report des mariages, l'avortement, la stérilisation permettraient de réduire les naissances de qualité inférieure, a-t-il déclaré. Il faut savoir que plus de 10 millions de Chinois sont nés avec un handicap, tandis que 10 autres millions souffrent de maladies mentales. Donc il s'agirait de supprimer en tout cas 20 millions de personnes. Certaines provinces ont déjà pris des mesures unilatérales pour prévenir des naissances de bébés anormaux. La commission du planning familial a fait pression dans une province du Nord-Ouest pour qu'elle amende une législation de 88 qui prévoyait la stérilisation des personnes mentalement retardées. La politique de contrôle de naissance interdit déjà aux couples d'avoir plus d'un enfant en ville et plus de deux à la campagne afin de limiter la croissance de la population. Cette mesure a conduit à des avortements tardifs, à des meurtres de petites filles dans des familles désirant absolument un garçon. Il faut savoir qu'il y a environ 1 million de filles qui manquent par année en Chine. La police du Bangladesh a annoncé avoir sauvé une centaine de personnes qui allaient être vendues comme prostituées ou comme esclaves. La plupart d'entre elles étaient des jeunes femmes et des enfants croyant partir à l'étranger pour y travailler. La police estime qu'au moins 15 000 personnes sont chaque année victimes de tels trafics humains. En Pologne, le passage à l'économie de marché s'est avéré beaucoup plus complexe et douloureux que d'aucuns ne l'avaient prévu. Des nombreuses grèves qui ont eu lieu en 1993 sont là pour témoigner de la détérioration du climat social. Avec la baisse du salaire réel et la dégradation des services, en particulier dans le domaine de la santé et de l'éducation, le chômage constitue à l'évidence l'un des coûts essentiels de la transformation de l'économie polonaise. Parallèlement à cette montée du chômage, on assiste d'ailleurs à une forte féminisation de la pauvreté. Au cours de la dernière année, le nombre de sans-emploi n'a cessé d'augmenter et à la fin du mois de septembre 1993, il dépassait 15% de l'ensemble des actifs et 23% en dehors de l'agriculture privée. Plus fréquemment au chômage que les hommes, les femmes constituent près de 53% des sans-emploi. En outre, les femmes sont plus nombreuses parmi les chômeurs, les chômeuses plutôt de longue durée, et il s'avère que leur niveau de formation les protège moins que les collègues masculins. On relève par ailleurs que la proportion d'hommes commence à augmenter dans certains emplois féminins du tertiaire où ils étaient très peu nombreux, comme la santé et l'éducation, alors que l'inverse n'est pas vrai pour les femmes. La question du statut familial joue un rôle non négligeable dans le taux de chômage féminin. Les jeunes femmes mariées, en particulier, éprouvent les plus grandes difficultés à trouver un emploi. De nombreux employeurs estiment qu'elles constituent une main-d'œuvre à risque. Entendez par là, elles sont trop souvent absentes et puis elles risquent de faire un enfant. On a même vu des directeurs d'entreprises privées exiger en toute illégalité que la candidate à un poste s'engage par écrit à ne pas avoir d'enfant durant une période déterminée après son embauche. Selon un institut, un tiers des femmes interrogées dans le cadre d'une enquête sur les effets du chômage dans les familles nombreuses disaient avoir renoncé à prendre un congé parental de peur de ne pas retrouver leur emploi. Parallèlement à cette montée du chômage, on assiste bien sûr à une féminisation de la pauvreté et avec des discriminations salariales qui sont très importantes puisque l'écart entre hommes et femmes pour un travail égal est de 30% en moyenne. Les femmes sont globalement moins présentes que les femmes dans les secteurs privés où les revenus sont plus élevés. Jusqu'ici, les autorités n'ont pas manifesté de préoccupations particulières vis-à-vis des problèmes spécifiques des femmes. À preuve, la décision des politiciens concernant la réforme des impôts introduite déjà il y a 2 ans. Jusqu'à là, les mères célibataires étaient autorisées à procéder à des abattements fiscaux, les faisant bénéficier d'un traitement particulier. Sous la pression des milieux intégristes hostiles aux situations familiales non conformes aux vues de l'Église, cette clause a été supprimée sous prétexte qu'elle défavorisait les couples mariés. Les mères seules doivent donc désormais payer des impôts comme n'importe quel célibataire sans enfant, ce qui les place dans une situation matérielle très défavorable par rapport aux autres parents. La garantie de retrouver un emploi en termes du congé parental à l'éducation a également été supprimée en 1990. Voici les bienfaits de l'économie libérale en Pologne. En France, nouvelle exclusion pour des jeunes filles qui veulent porter le voile à l'école. Dans 2 lycées grenoblois, des jeunes femmes ont été expulsées des écoles. Une Française d'origine maghrébine, âgée de 18 ans, a été exclue du lycée de Grenoble pour son refus de quitter son voile islamique pendant le cours de gymnastique. Dans un autre établissement, près de Grenoble, une élève de terminale n'a fait à 19 ans, également menacée d'exclusion définitive pour des motifs identiques. Toujours d'ailleurs, en parlant de la question du voile, sur laquelle nous reviendrons plusieurs fois cette année, je crois. Amnesty International charge très sévèrement la Tunisie de nombreux cas de torture et de mauvais traitements. Les victimes des violations des droits de l'homme sont avant tout des militants de l'organisation islamiste Ennahda, Renaissance, et ceux du Parti ouvrier communiste de Tunisie. Mais par rapport au voile, Amnesty International souligne que les femmes qui portent le voile islamique ne peuvent occuper un emploi dans l'administration et ne sont pas autorisés à visiter leurs proches en prison. En Allemagne, une clinique refuse du sang africain. Une clinique universitaire allemande a refusé le don du sang d'une infirmière éthiopienne au seul motif qu'elle est originaire d'Afrique. Le professeur directeur de la clinique a confirmé que son service avait refusé l'offre de cette femme, pourtant en bonne santé, mariée à un Allemand, vivant en Allemagne depuis 6 ans. « Je ne crois pas que ce soit du racisme », a-t-il dit. Il a déclaré que les patients seraient terrifiés de savoir qu'on les traite avec du sang d'un donneur non blanc. L'infirmière éthiopienne, qui a subi un test de dépistage du sida à cette clinique même, a dit au même journal qu'elle avait été blessée moralement et qu'elle considérait cela comme du racisme. Quand le journaliste de la radio a fait remarquer que de nombreux Allemands allaient faire du tourisme sexuel dans des pays exotiques comme la Thaïlande, le professeur de la clinique a répondu que la clinique devait s'en remettre à l'honnêteté des donneurs de sang. Les pilules radioactives ont été testées sur des femmes enceintes dans les années 40 aux États-Unis. C'est des nouvelles révélations sur les essais de médicaments sèment le trouble aux États-Unis. Des chercheurs américains ont donné des pilules radioactives à des femmes enceintes dans les années 40. Ils voulaient déterminer les effets à long terme des radiations sur les enfants, a-t-on appris. Les pilules radioactives ont été administrées à en tout cas 751 femmes enceintes venues dans un service de soins gratuit de l'université. On peut imaginer quel était le statut social de ces femmes. Les pilules administrées ont exposé les femmes et leurs fœtus à des radiations 30 fois supérieures à la normale. Les trois enfants sont décédés à la suite de ces expériences. Ils ont été victimes de tumeurs, cancers et leucémies. Les responsables de l'université de Vanderbilt n'ont pas pu préciser si les femmes avaient été informées de la nature des pilules qu'elles avaient avalées. Le département de l'énergie s'est engagé à rendre public dans ces prochains mois les informations au sujet des expériences sur les radiations conduites entre 48 et 52 par l'armée et les médecins américains. Mais les chercheurs ont détruit des documents relatifs à ces expériences dans les années 70, selon le porte-parole de l'université. Selon une enquête, le retour de la femme au foyer séduit pas très énormément, pas à la folie, les Français. Vous savez qu'il y a un vague projet de renvoyer les femmes à la maison en France pour baisser le chômage. Ça a toujours été une technique à l'épreuve des balles. Il n'y a plus de boulot. Les femmes à la maison. Eh bien, plus de la moitié des Français voient dans le travail à temps partiel la meilleure façon de concilier activité et vie de famille. C'est une étude menée par le Centre de recherche sur les allocations familiales. Pour les trois quarts des personnes interrogées, ces aménagements devraient en priorité, bien sûr, concerner la mère. Toute l'ambiguïté des opinions émises au sujet du travail féminin, écrit l'auteur de cette enquête, figure dans ce constat. La montée de l'activité féminine semble normale à 77% des Français. C'est même une bonne chose pour l'équilibre de la femme, mais paraît pas très bonne et même néfaste pour l'équilibre des enfants à 73% d'entre les répondants. Alors que l'on reparle de salaire parental ou de salaire maternel ou d'allocation de libre choix, quelles sont les solutions préférées des Français? C'est bien sûr les partisans du retour de la femme au foyer sont assez minoritaires, 15% appartiennent plutôt à des personnes assez âgées ou vivant à la campagne. 30% des Français estiment que la solution serait que la mère s'arrête temporairement de travailler. Mais 64% des femmes actives, elles, préfèrent le travail à temps partiel, point de vue partagé par la moitié des Français. Contraception, un évêque allemand surprend. L'Église catholique doit assouplir sa position, dit-il. L'évêque catholique de Limbourg, en Allemagne, appelle l'Église à assouplir sa position sur le contrôle des naissances, principalement pour répondre aux problèmes démographiques du tiers-monde. « Fondatrice du planning familial en France, Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais est morte. Le docteur Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais, fondatrice en 1956 de l'association La Maternité Heureuse, qui devint par la suite le mouvement français pour le planning familial, est décédée le 8 janvier à l'âge de 78 ans. Sa vocation a commencé comme étudiante en médecine alors qu'elle découvrit les horreurs des avortements pratiqués à vif. Entrée par hasard dans une salle d'opération, elle assiste à la souffrance d'une femme qu'un jeune interne curette sans anesthésie en disant « c'est la seule façon de leur hanter l'envie de recommencer ». C'est ce que explique ce dernier à l'étudiante. Cet incident qu'elle raconte dans la préface de son premier livre, « A grand peur d'aimer », est pour elle le point de départ d'une longue lutte en faveur de la contraception. En 1956, elle crée la Maternité Heureuse, dont l'objectif est de faire connaître la contraception et de fournir à celles qui le désirent des diaphragmes importés clandestinement de Suisse et d'Allemagne. En 1960, l'association prend le nom de Mouvement pour le Planning Familial. Un premier centre sera ouvert à Grenoble en 1961, délivrera des contraceptifs en toute illégalité jusqu'en 1967 à l'adoption de la loi Neuwirth. En Suisse, une organisation est née pour aider les femmes qui aiment des prêtres. Il s'agit de l'Étoile. Inspirée par l'association Clairvoix en France, un mouvement s'est créé en Suisse pour soutenir les couples clandestins prêtres-femmes. Le mouvement s'est fixé comme premier objectif d'aider ces femmes et ces prêtres à sortir de leur isolement et à se confier. Dans un second temps, l'Étoile est prête à intervenir auprès des autorités ecclésiastiques pour les mettre en face des réalités de leurs responsabilités. Si nous ne savons pas ni n'avons aucune estimation du nombre des prêtres qui vivent maritalement, il y en a sûrement plus que l'on croit, souligne le fondateur. Au propos d'ailleurs des femmes, de ses compagnes de l'ombre, un livre vient de sortir, écrit par Odette Desfonds, qui est la fondatrice de l'association Clairvoix, cette association qui en France défend le statut des femmes vivant maritalement avec des prêtres, vient d'écrire un livre donc qui s'appelle « La rivale de Dieu », un livre qui donne enfin la parole à celles qui partagent secrètement la vie des prêtres. Il faut savoir que Rome sait bien sûr, mais ne veut rien entendre de ces rivales de Dieu. En octobre comme en décembre 1993, le Vatican a refusé de recevoir leurs représentantes, sans doute au nom des célibats imposés à ces prêtres. Ce dogme qui ne repose sur aucun fondement théologique. Simple coutume datant d'un autre âge, tradition dont le poids le plus lourd repose aussi et avant tout, insiste Odette Desfonds, sur les femmes. En Suisse, toujours, un Saint-Gallois âgé de 21 ans a été condamné par le tribunal de district de Winterthur à 3 semaines d'emprisonnement avec sursis et une amende de 2000 francs. Il s'en était pris à 4 femmes à l'occasion de la grève des femmes du 14 juin, les frappant parce qu'elles avaient, selon ses affirmations, rayé sa voiture. Il devra également verser à ses victimes, parmi lesquelles se trouve une femme de plus de 60 ans, des dédommagements pour un total de 1100 francs. En 1994, vous savez, sera l'année internationale de la famille et plusieurs projets ont été mijotés déjà par Ruth Dreyfus. En Suisse, une commission nationale de 43 membres, placée donc sous la présidence d'honneur de Ruth Dreyfus, s'est donnée pour mandat de sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la famille, de dresser le catalogue des prestations qu'elle fournit, de relever les discriminations dont elle est victime et de souligner l'apport des familles provenant d'autres pays. Un groupe de travail se penchera particulièrement sur la compatibilité entre vie familiale et vie professionnelle. Au niveau fédéral, 4 décisions devront être prises l'an prochain, a annoncé Madame Dreyfus. Un projet de nouvelle loi sur l'assurance maternité, une solution nationale pour les allocations familiales, la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de l'enfance et enfin la création d'un organe consultatif permanent et indépendant en matière de questions familiales. Grande première, le Conseil fédéral a fait appel à une femme pour diriger le ministère public de la Confédération. Il s'agit de la Tessinoise Carla Del Ponte, âgée de 46 ans, actuellement procureure générale de son canton, membre du Parti radical. Elle entrera en fonction le 1er avril, c'est pas une farce. Connue comme une femme courageuse, Madame Del Ponte a notamment travaillé en étroite collaboration avec le juge Giovanni Falcone, assassiné en 92 par la mafia, et avec le magistrat Antonio Di Pietro dans le cadre de l'enquête anticorruption des mains propres. Elle-même figurait sur la liste noire de la mafia et avait été menacée de mort. En la nommant, le Conseil fédéral a rappelé que la lutte contre le crime organisé devrait être prioritaire. Autre nomination d'ailleurs dont nous sommes très contentes, une genevoise a été nommée au Bureau fédéral de l'égalité. Il s'agit de Patricia Schulz, avocate et féministe, qui défendra donc l'égalité homme-femme à Berne. La nouvelle Madame Égalité suisse sera donc genevoise. La conseillère fédérale Ruth Dreyfus a nommé Patricia Schulz pour remplacer Claudia Kaufmann, qui elle va partir pour travailler directement avec Ruth Dreyfus. Licenciée en droit de l'Université de Genève, titulaire d'un brevet d'avocate, Patricia Schulz est très connue des mouvements féministes depuis les années 70. Elle a enseigné pendant plusieurs années à la faculté de droit de Genève. Elle travaille actuellement à un projet du Fonds national dans le cadre du programme national sur l'égalité entre hommes et femmes. Et elle a participé à de nombreux projets de loi, entre autres à la révision de la loi genevoise sur l'université. Elle a obtenu l'inscription des dispositions sur la promotion des femmes et d'un système de quotas. Selon un interview qu'elle a donné à la Tribune de Genève, les femmes actuellement sont les premières à trinquer au moment des crises et toutes les luttes des femmes et les luttes féministes sont loin d'être dépassées. Et pour preuve que la cause des femmes en Suisse est loin d'être entendue, c'est le principe de l'égalité des droits entre hommes et femmes inscrit dans la Constitution et qui n'est toujours pas appliqué. Et le projet qui est déposé depuis presque une année par le Conseil fédéral soulève les passions parmi les membres de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Les antiféministes des hommes et une femme, toujours la même, Suzette Sandeau, la libérale vaudoise, tentent de laminer le projet défendu par le conseiller fédéral Arnold Kohler, ce qui le défrise surtout. C'est le retournement de la preuve. Maintenant, c'est donc à l'employeur et non plus à la femme d'apporter la preuve qu'il n'y a pas de discrimination. D'ailleurs, toujours à ce propos, une lettre a été adressée au conseiller national Dominique Ducret. Une lettre ouverte accuse le député genevois au Parlement fédéral de bloquer et de diluer le projet de loi sur l'égalité entre hommes et femmes. Et cette lettre est signée par une quarantaine de personnalités politiques issues du mouvement Solidarité, du PDT, du PS et du PEC, des militants syndicaux et des représentants des mouvements féministes. Monsieur le conseiller national, c'est avec stupeur et indignation que nous avons appris à quel point vous étiez montré un farouche adversaire des droits et des intérêts des femmes. Vous êtes aux côtés de celles et de ceux qui font tout leur possible pour bloquer et diluer le projet de loi, accuse la missive. À Belleville, une femme refuse de prendre sa retraite à 62 ans. Une femme médecin, invoquant l'égalité entre hommes et femmes, est autorisée par les juges à travailler jusqu'à 65 ans. Quelques nouvelles de décembre. Manifestation devant le magasin à Genève, l'ABM, pas de vendeuse à bon marché. Voilà ce qu'ont scandé la centaine de manifestants qui se sont réunis devant l'ABM rue du Rhône. Action, le syndicat des employés du tertiaire entendait par là protester contre les conditions salariales des vendeuses. Le reproche formulé à l'encontre du grand magasin, il engage trop de personnel auxiliaire et il est le seul à ne pas avoir signé la convention collective. Action invite donc les clients à faire leur achat dans des commerces respectant les vendeuses. Cela me confirme que comme Uniprix, nous avons raison de ne pas signer, déclare le directeur de l'ABM, Michel Pernet. C'est de l'ingérence dans l'entreprise. Tiens, à ABM, nous avons à peu près 50% de personnel fixe et 50% d'auxiliaires. Les conventions collectives nous obligeraient à n'avoir que 20% d'auxiliaires. Ce n'est pas acceptable. Fin de citation. Autre petite manifestation organisée par l'association de défense des chômeurs qui est montée aux barricades devant l'hôtel Lido, rue de Champ-de-Poulet, pour dénoncer le nouveau propriétaire qui a licencié la quasi-totalité du personnel pour embaucher d'autres employés à des conditions bien inférieures. Patron, le chômage n'est pas un fromage, ont scandé la trentaine de personnes devant l'hôtel. 12 personnes sur 15 ont été licenciées, elles ont été remplacées par des chômeurs payés au tarif de la convention collective. Des œuvres d'entraide en Suisse dénoncent le contrôle forcé des naissances. Des femmes du Sud et du Nord plaident pour la dignité de la femme dans le tiers-monde. La femme y est souvent utilisée comme cobaye pour tester des produits contraceptifs. 92 pays du monde, et du tiers-monde plutôt, imposent des politiques de contrôle de naissance de plus en plus sous la pression de la Banque mondiale. Les femmes y sont souvent utilisées comme des cobayes pour tester les produits contraceptifs développés par les multinationales pharmaceutiques dans le cadre de programmes de planification familiale contraires à la dignité humaine ont dénoncé 3 œuvres d'entraide et organisations tiers-mondistes suisses. Pour ces organisations qui lancent le débat en vue de la conférence mondiale sur la population qui aura lieu au Caire cet automne, bien plus que la surpopulation du Sud, c'est la surconsommation des pays industriels qui est responsable du désastre écologique qui menace la planète. La question centrale est bien celle d'un meilleur partage des ressources et non simplement celle du nombre d'êtres humains au bord du bateau Terre. Les trois organisations qui sont Action de Carême, Pain pour le Prochain et la Déclaration de Berne dénoncent la menace globale qui pèse sur l'environnement et qui est causée essentiellement par le pillage des ressources naturelles et la surconsommation des pays riches. 22% de la population mondiale utilise plus de 70% de l'énergie, a affirmé l'ethnologue Hélène Zweifel, collaboratrice de la Déclaration de Berne. Concrètement, a-t-elle poursuivi, cela signifie qu'un Suisse consomme en moyenne 40 fois plus de ressources qu'un Tanzanien. Le revers de ce mode de vie, une pollution, une montagne de déchets dont on ne peut pas accuser les pauvres du monde d'en être responsables. Malgré ces évidences, on tente de faire porter le chapeau de la dégradation de l'environnement aux populations du tiers-monde, dont on veut réduire la croissance démographique au moyen de campagnes de contrôle des naissances. Présentant à Berne leur brochure « Peu d'enfants, beaucoup de consommation » réalisée par 18 femmes du Sud et du Nord, les œuvres d'entraide ne font certes pas campagne contre toute planification familiale, mais elles estiment que c'est d'abord l'affaire des femmes et des familles elles-mêmes. Elles dénoncent par contre les contraintes imposées aux femmes par le gouvernement des pays pauvres qui subissent eux-mêmes les pressions de la Banque mondiale et des programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. On utilise la population comme cobaye pour expérimenter des nouveaux produits contraceptifs sans informer les gens sur les éventuels effets secondaires, sans leur laisser d'alternatives et sans tenir compte des données économiques et sociales. Elle rentre du Bangladesh et elle a pu elle-même constater dans les villages comment on implante sous la peau des femmes des contraceptifs comme le Norplan qui sont en phase d'expérimentation. Elle était accompagnée par la philosophe indienne Sumati Nair qui, tout en se déclarant favorable à la possibilité pour les familles de choisir elles-mêmes le nombre de leurs enfants, a lancé un appel pour que l'on mette en terme au niveau mondial au programme de limitation des naissances adopté par les gouvernements sous la pression de la Banque mondiale, de l'USAID ou du Fonds des Nations Unies pour la population. Et Sumati Nair de conclure, le contrôle de naissance est devenu une arme pour le contrôle des femmes et des pauvres, une politique qui occulte l'une des causes fondamentales du sous-développement, le manque d'un accès équitable pour tous aux ressources de la Terre.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Restez à l'écoute. Bientôt, la continuation de nos nouvelles.